France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Google n'y est donc pour rien pour une fois dans la numérisation des livres du Vatican dont nous parlait à l'instant le journal de la culture de Natacha Triou. C'est une organisation à but non lucratif, la Digita Vaticana Oculus, qui s'est montée il y a quelques années pour mener ce projet à bien. On est donc loin des GAFA et ce matin on parle plateforme numérique, contrôle des GAFA, utilisation des données, fake news, tout ça à la fois. Bonjour François Bernard Huyghe. Google n'est pas toujours sur tous les coups donc de la numérisation des livres.
Écoutez, non, oui, on se souvient toutes ces controverses sur Google réalisant en quelque sorte la bibliothèque de Babel de Borges qui aurait contenu tous les livres du monde mais sur lesquels il aurait eu les droits. Non, il n'a pas tous les coups. Bah, bravo le Vatican, et ça me rappelle une chose que j'ai vue il y a bien des années. C'était des moines sri lankais, donc du petit véhicule du bouddhisme, qui sur de vieux ordinateurs tout pourris essayaient de numériser tous les sutras pour que la mémoire ne s'en perde jamais. Bon,
et
bravo.
C'était quand ?
Aux années 90, quand j'étais sur les routes de la soie.
Google n'existait pas.
Ah bah voilà, l'explication.
L'explication est là.
Bon. J'avais pas songé.
Alors François Bernard Huyghe, on vous présente comme médiologue et essayiste français. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialisé sur la communication, la cyberstratégie, l'intelligence économique. Vous êtes responsable de l'Observatoire géostratégique de l'information. Avant de commencer cette discussion, est-ce que vous avez coupé un peu quand même avec les plateformes, les réseaux sociaux, Internet, votre portable, tout ça?
Alors,
cet été
vous savez, je vis dans un milieu de paranoïaque, hein, où on parle tout le temps de cyberattaque, et j'applique absolument, là, avec mes étudiants, la stratégie « faites ce que je dis, pas ce que je fais hein, », ça c'est très clair.
Oh ben si, un peu quand même, parce que vous avez un compte Facebook, mais il est totalement privé.
Alors, j'ai un compte Facebook où je n'ai pas été depuis plusieurs années, donc je ne sais pas ce qui s'y passe, et qui ne doit pas donner d'informations très... Voilà, de temps en temps, avec certains copains paranoïaques, j'utilise la messagerie Telegram, donc il n'y a que les services russes qui savent ce que je dis. Ce sont des copains. Mais non, en dehors de ça, je ne suis pas particulièrement paranoïaque et prudent, non.
Bon, chaque jour, des utilisateurs ferment leur compte. On n'a pas de chiffres d'ailleurs, enfin, j'en ai pas trouvé.
Alors, blague dans le coin. Oui. Cette affaire de Facebook, elle est quand même assez intéressante, puisqu'on a vu une chute boursière monstrueuse de Facebook et
qui
quand
a perdu 115 milliards de dollars à la bourse en une journée fin juillet. Son titre s'est effondré de 19%.
Même pour Zuckerberg, ça doit faire un peu plus qu'un pourboire. Et on voit effectivement, donc il y a un double mouvement. D'un côté, Facebook, c'est un peu ringardisé. On voit que chez les jeunes, on utilise plus Snapchat, WhatsApp, etc. Et d'autre part, effectivement, à force, depuis le temps que M. Zuckerberg s'explique, s'excuse, se roule par terre devant des commissions parlementaires pour des erreurs qu'il a fait parce que sa bonne foi légendaire a été prise en défaut, bah ça finit quand même par atteindre à l'image de Facebook, et en particulier, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, cette affaire de Cambridge Analytica qui révèle le début D'un grand mouvement de contrôle des populations.
Mais parlons-en tout de suite, d'ailleurs, de Cambridge Analytica, du nom de cette société de communication proche de Donald Trump, qui pendant la campagne s'est servi de Facebook pour, on va dire, pomper les données de 87 millions d'utilisateurs pour modéliser leur comportement et ensuite mettre en place de la pub, comme ils disent, on peut appeler ça propagande, bon bref, adaptée donc aux utilisateurs qui votent pour Donald Trump. Et en même temps, d'avril à juin, Facebook enregistrait 42% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, est-ce finalement, cette affaire a vraiment atteint la confiance des gens?
Alors,
et des marchés surtout.
Il y a beaucoup d'éléments qui ont atteint la confiance des gens. On l'a bien vu dans les discours un peu emberlificotés de Zuckerberg. Il disait oui, Cambridge Analytica, oui, mais on va faire des choses contre les fake news et contre les méchants fachos. Je pense pas que Mark Zuckerberg ait voté Trump. Hein, on se comprend bien. Dans l'affaire Cambridge Analytica, il y avait deux choses qui étaient graves. La première, c'était la création d'une application qu'on pourrait comparer à une sorte de test psychologique, un peu comme les tests de Marie Claire qui donnent des indications sur ce que vous êtes, dont les données qui auraient dû être effacées ne l'avaient pas été. Bon, ça c'est pas bien, je suis d'accord, ils doivent être punis, mais ça c'est banal. Il y a des tas d'applis qui balancent, qui partagent leurs données avec Facebook. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et là encore, c'était au service de Trump, mais la même chose s'est faite quelques années auparavant au service d'Obama. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, Wired avait fait un article pour expliquer qu'Obama était un type épatant totalement dans la modernité. Ça consiste en quoi ? C'est le fait que si on accumule des données sur vous, sur vos comportements d'achat, sur savoir avec qui vous êtes en contact, on va, c'est une évidence, très bien vous connaître. Je ne sais plus qui dit, à partir du moment où vous avez fait 100 connexions, Facebook, c'est pour qui vous votez, quelle est votre sexualité, et si vous avez un problème avec la drogue ou avec l'alcool. Bon, c'est donc à partir du moment où on accumule des données sur vous et... Bon, nous croyons tous être des individualités rebelles et irrépressibles, mais en réalité, nous sommes de terribles conformistes, et à partir de certaines données, on peut prédire très bien comment nous habillerons et ce que nous mangerons.
Et voilà comment la plupart des jeunes trentenaires femmes reçoivent sans cesse des publicités pour les tests de grossesse, par exemple.
Alors, oui, alors il y a des tas d'histoires sur les tests de grossesse. Par exemple, comment on calcule dans les supermarchés en fonction des achats des genres, l'état psychologique des femmes. Oui, il y a eu des cas où on a découvert la grossesse de ces dames avant qu'elles-mêmes ne soient au courant par les données de comportement. Alors, dit comme ça, ça paraît rigolo, mais en fait, ça me fait pas rire du tout. Parce que ça veut dire que, selon la célèbre formule, Google en sait plus sur vous que vous-même. C'est-à-dire qu'en accumulant des indices hein, de ce que vous faites, qui vous contactez, etc., on dresse sans même avoir besoin de comprendre les processus psychologiques ou sans faire appel à des grosses catégories sociologiques du genre bourgeois, argé, centre urbain, bobo, etc. On a de la prédiction de vos comportements. C'est ce domaine de la prédiction de vos comportements qui est alarmant. On peut faire une expérience très simple, aller sur Amazon, commander un livre, et après le deuxième ou troisième livre que vous avez commandé, moi je peux vous dire qu'Amazon sait quelles sont mes idées politiques et pour qui je vote. Hein. Je le vois très nettement d'après les propositions de ou à quelle famille intellectuelle j'appartiens. Je le vois très bien d'après les propositions qu'ils me font. Donc, si vous généralisez ce système, vous rentrez dans la prédiction de vos attentes et de vos désirs. Et, alors, la pub peut l'utiliser. Vous avez toujours rêvé de cette tondeuse à gazon. Regardez, elle est à bas prix. Mais ça marche également en politique.
Mais ça, c'est censé être de l'histoire en scène, François Bernard Huyghe, puisque l'Europe, en tout cas pour nous, Européens, l'Europe a mis en place, en vigueur en tout cas, le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, d'ailleurs, depuis quelques semaines, pour nous, pour ceux en tout cas à qui ces questions importent. La navigation sur Internet s'est faite un peu plus laborieuse, oui, on doit prendre à chaque fois qu'on explore un site le temps de décocher des paramètres d'utilisation des données, d'ailleurs, j'imagine que vous le faites vous systématiquement.
Je devrais, oui.
Quel premier bilan vous faites de la mise en place de tout ça? On se disait ça va être compliqué, les entreprises vont pas réussir à le faire. Voilà, qu'est-ce qu'on
peut... Ça se passe bien, effectivement, il y a ces petites pertes de temps. C'est trop tôt pour tirer un bilan. Bon, le principe est excellent. Je vois pas sur quel point on pourrait critiquer la RGPD, surtout si ça n'est qu'une étape. Alors, on va voir évidemment des problèmes qui vont pas être seulement des problèmes d'usage, mais on va rencontrer l'Empire, quoi.
Hein ? C'est-à-dire,
les États-Unis et leur Privacy Shield.
Le bouclier de protection des données.
Très compliqué. Voilà, ce sont deux systèmes de protection des données. Ça serait très compliqué à expliquer. Mais nous, c'est un système qui est imposé par l'Europe. Eux, c'est un système qui relève plus du droit anglo-saxon, avec des certifications, des contrats, etc. Et ces deux systèmes vont se heurter d'une façon ou d'une autre. Les États-Unis considérant que si vous êtes bon pour le Privacy Shield, vous êtes bon pour le RGPD. Enfin, je simplifie atrocement, hein, bien entendu, considérant que le Privacy Shield n'offre pas toutes les garanties. En tout cas, il fonctionne dans un système du contrat de l'obligation très anglo-saxon. Alors, ceci dit, moi, je trouve que c'est très bien qu'on ait des crises de vertu et que ça crée des crises de conscience, mais on pourrait revenir un petit peu en arrière et se souvenir ce qui s'est passé après les grandes révélations de Snowden, expliquant que, au fond, la NSA pioché dans Google que Merkel, Sarkozy, Hollande avaient leur téléphone écouté, etc. On a dit que c'était intolérable et par la suite, on a très bien toléré.
Bon, en tout cas, les GAFA semblent commencer à frémir un peu devant l'Europe,
oui,
puisqu'ils imputent d'ailleurs à cette nouvelle réglementation leurs mauvais résultats de ces dernières semaines. Oui. Et par ailleurs, d'autres pays veulent suivre la voie ouverte par l'Europe. Je pense au Brésil, à la Corée du Sud, et même au sein des États-Unis, des députés démocrates qui disent là, il va falloir commencer à réglementer. Donc il y a une vraie prise de conscience grâce à l'Europe, point d'interrogation.
À l'Europe, oui, allez, bah, rendons-lui cet hommage, on n'a pas souvent l'occasion.
Et de féliciter l'Europe.
L'Europe pour cette excellente initiative, ouais.
Alors, est-ce que, globalement, Cambridge Analytica et l'utilisation qui peut être faite de nos données pose aussi la question de la propagande et des fake news ou fausses nouvelles? Je ne sais pas quelle. Vous préférez l'expression fake news puisque c'est le titre de votre ouvrage
oui,
que vous avez.
J'ai repris l'anglicisme. D'ailleurs, c'est très intéressant ça serait intéressant de refaire l'étymologie et l'histoire de ce mot comme d'une cinquantaine de concepts anglo-saxons qui ont envahi le débat public comme le fact. Shaking, post-truth, soft power, hard power. Enfin, il y a tout un appareil conceptuel comme ça qui a traversé l'Atlantique en masse, venant des think tanks plutôt atlantistes ou des milieux plutôt progressistes unis en l'occasion pour envahir le débat public. Alors, soyons précis, les fake news, au début, fake, c'est de l'argot américain et ça veut dire. C'est un faux bijou, par exemple, hein, quelque chose qui imite quelque chose d'autre. Alors, les fake news, ce sont des nouvelles il faut que ce soit des nouvelles, donc ça avance quelque chose qui vient de se produire, un événement relate un événement dont l'auteur initial sait parfaitement qu'il n'a pas existé. Par exemple, il bidouille une photo, il vous dit que ça se passe en Irak alors que ça se passe en Syrie, ou il prête une déclaration imaginaire à quelqu'un.
Voilà, la langue française a de nombreux mots à disposition pour éviter l'anglicisme, bobard, rumeur, propagande, bourrage de crâne, mais théorie du courant, mais ce sont des choses.
Forgerie était très beau aussi, oui.
Forgerie, mais ce sont des choses très différentes, quoi qu'il en soit. Donc, utilisons l'expression fake news, puisqu'elle a été la loi qui est en train de se construire en France parle de loi anti-fake news. Elle a été retoquée au Sénat fin juillet. Les sénateurs ont buté sur plusieurs. Alors, grâce au ciel, je rappelle juste que les sénateurs, fin juillet, ont buté sur plusieurs dispositions, notamment cette procédure en référé qui pourrait être engagée sous 48 heures afin de suspendre la diffusion d'une fausse nouvelle. Et vous dites grâce au ciel, François
Bernard. Oui, alors je ne cache pas que j'ai écrit fort article et milité contre cette loi pour de nombreuses raisons. D'abord, elle s'appellera loi contre la désinformation. Donc on a abandonné fake news, qui est effectivement un mot très 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 flou, parce que de quoi on parle, fausse nouvelle, faux compte, fausse manière de faire gonfler l'audience, etc. Elle avait à mes yeux deux défauts principaux, en dehors de toute la littérature qu'on peut faire sur ces liberticides, c'est pas bien. Le premier, c'était une déplorable définition de la fausse nouvelle, qui était une information dont on... Alors attends, j'ai plus la formule exacte, mais l'idée générale, c'est pour laquelle on n'a pas d'éléments et qui n'est pas vraisemblable. Alors, reprenons l'affaire Benalla et voyons combien dans l'affaire Benalla, il y a eu d'éléments qui se sont révélés parfaitement vrais et on n'avait pas, qui ne paraissaient pas très vraisemblables ou dont on n'avait pas, sur lesquels on n'avait pas de documents certains pour les appuyer.
Mais
l'enquête journalistique, ça se fait rarement avec des actes notariés quand même.
Hein. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, dans son discours, quand il prend la parole 6 jours après que le Monde révèle l'affaire, il met dans un même panier toutes ces informations-là, les vraies.
C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Alors, si vous voulez, c'est une technique de rhétorique. J'ai oublié son nom, il y a un nom grec pour ça, qui consiste à mélanger les accusations qu'on vous adresse. On dit que j'ai tripoté dans les comptes publics et demain on dira que j'ai égorgé des petits-enfants. Hein, c'est cet argument-là. C'est très exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. C'est-à-dire, quand vous avez un phénomène comme l'affaire Benalla, vous avez, c'est le boulot des journalistes, là encore, ou des enquêteurs, vous avez des docs, certains, des vidéos sur lesquelles on voit machin, où on reconnaît pas de truc, ou des documents qui doivent peut-être venir du genre, ah, vous savez qu'il a un appartement à tel endroit. Et puis là-dessus, s'ajoutent deux couches, Bon, il y a la couche, si j'ose dire, normale des erreurs, des rumeurs, des exagérations. Par exemple, l'appartement de Benalla, est-ce qu'il faisait 85 mètres carrés ou 300 mètres carrés ? C'est secondaire. Et puis, il y a une troisième couche, c'est les vraies fausses nouvelles, mais dont certaines sont parodiques. L'exemple le plus célèbre, c'est que c'est le site belge
Nord-Presse.
Qui avait dit, voilà, disant que Benalla avait les clés de la bombe atomique, ce qui est une blague. Enfin, je veux dire, même moi qui ai un nom belge, je comprends que c'est une blague.
Et donc tout ça a été aussi amplifié à un moment par les réseaux sociaux, par les GAFA, et serait peut-être tombé sous le coup d'une loi anti-fausse nouvelle.
À certains moments, oui. Alors, moi, je peux vous donner des dizaines d'exemples. Je sais pas, revenons en arrière. Le président de la République a eu la Francisque, a une fille illégitime et l'a fait vivre aux frais de la République, où on a envoyé une équipe faire sauter un bateau en Nouvelle-Zélande. C'est typiquement le genre de fausse nouvelle qu'on aurait sanctionné.
Alors François-Bernard Huyghe, est-ce à l'État de lutter contre les fake news sur les plateformes et est-ce aux journalistes de l'épauler en cela, puisqu'ils sont sollicités pour aller traquer la fausse nouvelle sur les plateformes ?
Alors, que ça soit l'État, non. Pour des raisons évidentes qu'il est intéressé à cette affaire. Une autre raison, c'est qu'il est, il transforme son impuissance en rodomontade. Je m'explique. La censure classique, on sait comment ça marche. Voilà, il y a un journal qui a fait un truc, il y a un juge, on va interdire les fleurs du mal, ou on voyait dans des pays moins sympathiques, on va envoyer une équipe casser les rotatives. Bon, ça c'est de la censure classique. Vous émettez et clac, vous êtes puni plus ou moins légalement. Le problème est, par ailleurs, nous avons une excellente loi de 1881, dont un des articles réprime le fait d'avoir sciemment fabriqué de fausses images ou de fausses nouvelles pour perturber l'ordre public. Là encore, je dis pas les termes exacts, mais c'est bien l'idée générale. Alors moi, j'ai aucune objection à ça. Si quelqu'un a vraiment fabriqué, qu'on peut le prouver, si c'est un acte positif, et si c'était dans un but de perturbation, très bien. Mais là, nous sommes dans une situation où l'État ou les autorités vont essayer de faire retirer un contenu qui est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui se balade quelque part dans les cas sous-marins, dans les ordinateurs, avec des sociétés qui sont sous le droit de la Californie, etc. Donc ça veut dire « code is law », le code c'est la loi, hein, pour reprendre une expression célèbre. Le véritable pouvoir, c'est pas du tout le pouvoir politique, c'est le pouvoir technique des GAFA de retirer ou pas, de supprimer des comptes. Or, ils le font déjà, et ils le font déjà énormément.
Voilà, GAFA qui, si elles se moquent de la contrainte fiscale, peuvent aussi donner peu d'importance à la contrainte légale. Alors voilà, on en parlera tout à l'heure. Les seules qui peuvent aujourd'hui vraiment censurer le web, ce sont les plateformes elles-mêmes qui font la pluie et le beau temps sur ce qui peut se dire et ce qui ne le peut pas. Donc on en parle tout à l'heure, si vous voulez bien rester avec nous. François-Bernard Huyghe, après le journal.